BW. Droits et libertés.
Filmer les procès. C'est autorisé sous certaines conditions en France, c'est interdit en revanche en Allemagne. Alors faut-il filmer les procès? Lesquels? Comment? À quelle fin? C'est aussi la question au cœur d'une journée d'études organisée par le Centre Marc Bloch et l'Institut français de Berlin, qui propose également une exposition qui retrace différentes expériences de procès historiques captées par des caméras après la Seconde Guerre mondiale. Comment donc faire pour à la fois informer le public de ce qui se passe dans le prétoire, produire des archives pour les historiens, sans toutefois tomber dans le spectacle racoleur, afin de garantir les droits de la défense et des témoins? Nous abordons cette problématique avec Fabien Théophilakis, historien, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Actuellement, il travaille au Centre Marc Bloch de Berlin et il a participé à l'exposition que j'évoquais à l'instant. Il a beaucoup étudié notamment le procès Eichmann, un haut dignitaire nazi, dont nous allons aussi parler tout de suite. C'est Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Fabien Théophilakis, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi d'abord avoir décidé de co-organiser avec Caroline Moine cette journée d'études « Filmer les procès, perspective franco-allemande ». Quelle idée de se pencher sur ce sujet-là maintenant ?
L'idée, c'était de voir à travers ces deux cultures de la justice et de perception des procès, eh bien, qu'est-ce qui faisait, quelle différence il y avait et en quoi ce regard croisé pouvait nous permettre de mieux comprendre les spécificités nationales et une réflexion quand même contemporaine de comment aujourd'hui, dans un monde de l'image, peut-on faire connaître la justice, peut-on faire que la justice soit un exemple si on a des images ou si on n'en a pas.
Les tout premiers procès qui ont été filmés, ce sont les procès de Nuremberg au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, de dignitaires nazis. Et puis après, au début des années 60, le procès Eichmann aussi, un grand dignitaire du régime hitlérien.
Oui, effectivement, le premier grand procès qui a été filmé, enfin, dans la mémoire, filmé, c'est le procès de Nuremberg. Alors, c'est pour ça qu'en même temps, Nuremberg fait jurisprudence, crée un précédent. C'est notamment parce que vu l'ampleur des crimes et surtout la volonté de faire de ce procès, ce qu'on va appeler un procès spectacle, alors, l'idée c'est qu'en fin de compte, au-delà de ce qui se passe dans le prétoire, au-delà des 21 accusés aux dignitaires nazis qui sont dans le box, hein, qui sont sur les bancs des accusés, il y aurait une portée morale, politique, pédagogique à rendre public les débats de ce qui se passe à Nuremberg. Et donc très rapidement, le Jackson, donc, qui est le procureur américain, va décider, en accord bien sûr avec les autorités américaines, va décider de filmer et de prévoir trois emplacements pour des caméras qui vont à l'époque pas être capables de filmer l'intégralité des débats, mais qui vont donner une publicité au sens propre du terme à Nuremberg. La justice, par définition, a pour porter, pour pouvoir être efficace, se fonde sur un principe de publicité. Il faut que ça se sache, qu'on sache ce qui se passe, et donc il y a une diffusion. Et en même temps, il y a un principe d'équité. Il faut quand même que les droits soient respectés des deux parties, notamment les droits de la défense.
Et est-ce que l'idée de départ, c'est aussi que la justice dans les démocraties est rendue au nom du peuple et que donc il est légitime que le peuple sache ce qui se passe dans une salle d'audience ?
Exactement. Dans une justice nationale, la justice va être rendue au nom du peuple français, du peuple allemand ou du peuple américain. Là, on a un tribunal militaire d'une part, un tribunal international, et ce n'est pas pour un pays, mais éventuellement, c'est ce que dit très clairement Jackson. Si Jackson considère qu'il faut que ce procès soit un procès spectacle, au sens notamment qu'il soit vu, la justice doit avoir une portée morale, édificatrice, même pédagogique. Et là, dans le cas présent, il y a l'idée que si jamais on n'arrive pas à montrer en quoi le nazisme est une idéologie mortifère, c'est pas seulement la défaite de l'Allemagne ou la défaite de l'Europe, c'est à terme la défaite de la civilisation. Et donc il y a bien derrière un enjeu moral qui dépasse le Nuremberg, qui dépasse aussi en même temps les 21 accusés, mais qui va avoir pour visée de juger, de condamner une idéologie, un régime qui a été celui qui a entraîné la guerre et causé des millions de morts. Derrière Jackson et les alliés, c'est l'ensemble des sociétés, l'ensemble du monde, on va dire civilisé, qui en fin de compte porte justice.
Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand il y a image, d'abord qu'elle soit manipulée, puisque forcément c'est un parti pris, l'image aussi. Après, il se pose évidemment aussi le problème de la diffusion de cette image. Il y a la captation d'une part, mais aussi la diffusion et le montage éventuel. Est-ce qu'il n'y a pas des risques dans ces cas-là aussi que on juge au faciès en partie, ou que ça joue aussi un rôle, que ça desserve les prévenus, mettons, s'ils ont une gueule d'assassin, entre guillemets, comme dirait Barbara, ou au contraire, la fameuse banalité du mal au procès Eichmann, quelqu'un qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, qui s'est rendu coupable des pires atrocités.
Oui, ce que vous soulevez, c'est exactement l'objection qu'a soulevé Servatius, qui est Robert Servatius, qui est l'avocat d'Eichmann, donc à Jérusalem, en 60-61, et avant même que le procès ne débute, en avril 61 à Jérusalem, eh bien, Servatius, quand il apprend que des caméras vont être introduites, ou il n'y a qu'une possibilité d'introduire des caméras pour filmer le procès, il va s'élever contre cette introduction en mettant en avant que ça va desservir, ça risque de porter atteinte à l'équilibre des débats, et notamment ça risque de porter atteinte à la défense. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le montage pourrait tronquer des éléments de réponse ou provoquer une dramaturgie particulière qui serait défavorable à l'accusé. Alors la solution qui a été choisie, parce que quand on dit filmer les procès, dans ces cas-là, c'est bien sûr qu'il y a un cahier des charges qui va avec, que ce soit à Nuremberg en 45-46, comme vous l'avez rappelé, comme on vient d'évoquer à Jérusalem en 61, mais après, notamment la loi Banater en 85, eh bien vous avez des contraintes. Une des premières contraintes, c'est les problèmes techniques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les caméras fassent du bruit, perturbe la sérénité des débats, il ne faut pas que les caméras transforment le prétoire en plateau de télévision. Mais vous avez très concrètement, pour éviter justement que la dramatisation prenne le pas sur le reste, vous allez avoir dans la loi, notamment dans le cahier des charges du procès Barbie, hein, 87 à Lyon, qui est le premier procès filmé en France, crime contre l'humanité, vous avez une interdiction de plans en coupe, une interdiction des gros plans. L'idée, c'est vraiment que dans la loi, on ne prenne pas le point de vue de celui qui filme, mais le point de vue du juge. Donc une sorte d'impartialité par rapport à ça. Mais en même temps, il faut bien l'ajouter, c'est que, comme vous le dites aussi, ces films, ces captations, sont toujours un point de vue par définition.
Vous avez parlé des droits de la défense. Je pensais aussi aux difficultés d'assurer la sécurité des témoins.
Bien sûr, alors c'est pour ça que notamment à la haie, c'est-à-dire quand vous assistez au procès ou quand vous êtes filmé, il y a des moments où les témoins ne sont pas filmés. Alors à la haie, généralement, ça se passe par huis clos, donc on a une sorte de la vitre se voile et on peut plus, enfin elle est obstruée. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, le juge peut prendre des dispositions pour soit suspendre, soit mettre entre parenthèses le filmage pour que la vie des témoins ne soit pas en danger.
Et peut-être ce qu'on n'a pas précisé aussi, la loi Badinter de 85, donc qui a été promue en France, qui est toujours en vigueur en France, autorise la captation de procès pour certains domaines, c'est-à-dire des affaires qui portent sur la Seconde Guerre mondiale, sur la dictature chilienne et le génocide de 94 au Rwanda.
Alors effectivement, la loi de Badinter, c'est une loi qui a été promue, qui a été promulguée, qui a été votée dans le sillage de l'arrestation de Barbie pour des procès qui sont considérés comme constituant des procès historiques, c'est-à-dire un intérêt particulier pour l'histoire, pour la connaissance du passé, et donc ça limite en grande partie ces procès à certaines affaires. Et d'autre part, comme c'est à finalité de recherche, les captations ne sont pas librement diffusables à ce moment-là. Il y a un délai de prescription comme une archive normale.
Fabien Théophilakis, vous êtes historien vous-même, et vous avez, vous l'avez mentionné, beaucoup travaillé sur le procès Eichmann, qui s'est donc tenu en 61 à Jérusalem. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose d'avoir accès à des sources filmées ? Ou est-ce que vous auriez travaillé tout autrement au-delà de la thématique, bien sûr, mais sur ce procès, avec d'autres types de documents plus classiques ?
Qu'est-ce qu'apporte en fin de compte l'archive filmique, et est-ce qu'elle apporte quelque chose? On a parlé déjà de certains défauts ou certains éventuellement précautions à prendre. Je pense que fondamentalement, ce qu'apporte l'archive filmique, eh bien, c'est ce que, en fin de compte, elle va venir corriger ou compléter des archives papier. Les ambiances, tout ce qui est du non-dit, le langage corporel, les regards, oui, les tensions, qui sont fondamentaux pour comprendre que le procès reste une dramaturgie, reste une scène où se joue un drame au sens propre du terme. L'image permet de voir autrement, permet de voir, de venir en complément, de venir corriger ou enrichir encore plus, et faire l'économie de ces études de procès sans utiliser l'image, me semble-t-il, est un petit peu anachronique.
Vous le disiez, en Allemagne, on n'a toujours pas surmonté totalement ce traumatisme des procès nazis qui avaient été filmés sous le Troisième Reich. Est-ce que ça explique la position, totalement, je veux dire, la position encore actuelle, donc de ne pas filmer les procès? Et où est-ce qu'il y a un changement de position en ce moment qui est en train de s'opérer en Allemagne aussi?
Oui, alors effectivement, en revanche, la discussion est de plus en plus posée, hein, sur les, notamment par rapport au dernier procès de la NSU, sur ces mouvements d'extrême droite qui ont commis des attentats, qui est une réflexion sur est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer le droit, est-ce qu'il y a une adaptation possible, parce qu'effectivement, on a ici un paradoxe qu'on pourrait dire, c'est qu'en même temps, ces procès-là, et notamment en Allemagne, ont une grande valeur pédagogique, et il y a quand même une grande publicité qui est faite, et paradoxalement, on n'a pas d'image. Et la réflexion qu'on pourrait avoir aujourd'hui, dans une société dans laquelle l'image est à une place considérable, dans laquelle la pédagogie par l'image est considérable, comment on fait si on veut continuer à faire en sorte que ces crimes-là soient vus comme des crimes qui sont au-delà de leur quotidienneté, de leur actualité, sont des crimes qui rappellent des choses et qui renvoient à un certain héritage, comment on fait si on n'a pas d'image pour les soutenir?
Fabien Théophilakis, un grand merci.
C'est moi qui vous remercie pour vos questions, vos intérêts, et j'espère que les auditeurs seront intéressés d'aller voir ces archives-là, parce que l'idée quand même, c'est notre réflexion, c'est de faire en sorte que ça devienne, la justice ayant été rendue au nom du peuple français en l'occurrence, ou du peuple allemand, c'est que les gens aillent voir et s'approprient ces archives-là, aillent revoir ces procès et comprennent ce qui s'est passé réellement.
Ah, ça donne envie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vous, et puis à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Fabien Théophilakis. Si le sujet du lien entre justice et démocratie vous intéresse, allez jeter un œil sur le site internet du Centre Marc Bloch de Berlin. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.